Les chemins de traverse avec Pascal Laurière, une émission Maurice Clément Fèvre. Bonjour et bienvenue dans ce chemin de traverse, le safran de la safranière à votre assiette. Au fil des saisons et des rencontres, nous allons suivre le cycle de Crocus sativus jusqu'à l'obtention puis l'utilisation de l'or rouge, le safran. Toutes les plantes cultivées ont un berceau où leur ancêtre sauvage a été repéré. En ce qui concerne le safran, le mystère est épais. Sa présence est attestée depuis qu'il existe une mémoire écrite ou picturale. Tout ceci renforce le côté mystérieux, légendaire ou mythologique de son origine. Dans ce chemin de traverse, je vous propose trois origines du safran.
Crocus est la traduction latine du grec crocos. Crocus est un très jeune homme éperdument amoureux de l'inaccessible nymphe Smilax. Par la force de cet amour malheureux, tous deux furent transformés en fleurs. Le crocus, rivé au sol, ne pourra jamais s'unir à la sauvage Smilax. Smilax aspera est la salse pareille commune, une liane intrépide des garrigues méditerranéennes.
Christian Agrèche, président du Conservatoire botanique du safran de souche Quercy. Le safran à l'origine, ça vient de quel pays, quel continent ?
Alors le safran à l'origine, bon, on sait que c'était cultivé sur les contreforts de l'Himalaya, notamment au Cachemire, mais ça viendrait d'Asie mineure aussi. Il y a eu beaucoup de cultures qui se sont développées sur tout le pourtour méditerranéen grâce, aux Phocéens qui ont fondé Marseille, aux Phéniciens qui avaient des ports, des comptoirs de commerce tout autour de la Méditerranée. Donc ils ont ramené donc à la fois l'épice mais à la fois les bulbes sur les côtes d'Espagne mais aussi sur les côtes françaises méditerranéennes. Et là, à partir de là, est arrivé le safran. Donc au 9e siècle, l'Espagne était le pays du safran, où il y en avait énormément. D'ailleurs, ça a duré puisque encore au début du 20e siècle, l'Espagne produisait 100 tonnes. Aujourd'hui, on produit que peut-être une ou deux tonnes maximum. Mais par contre, le pays le plus gros producteur à l'heure actuelle, c'est l'Iran.
Qui produit, lui ?
Alors, l'Iran produit à peu près 100 tonnes, certainement plus.
Donc, notre safran, il est arrivé par la Méditerranée, en France.
Oui.
Il est arrivé à Marseille. Et de là, quel a été son trajet pour coloniser, en quelque sorte, la France ? Et en quelle époque il a vraiment débarqué par chez nous ?
Oui, alors, il a débarqué au niveau du Quercy. Les éléments que l'on a, ça serait entre le 12e et le 14e siècle, enfin plutôt le 12e, où on a remarqué une production agricole, disons, une production pour le commerce, très, très importante. Mais ceci dit, on sait que bon, les Romains avaient dans leur jardin les épices et avaient aussi le safran, avaient des bulbes. Donc on peut considérer que pour une production familiale et une petite production agricole, depuis l'époque romaine, on peut penser que, ou depuis les Phéniciens, on a du safran dans les jardins sur nos territoires. Voilà. Donc ensuite, bon, à partir du moment où il y avait une grande culture agricole pour le commerce, la zone de culture s'est étendue de l'Albigeois, Quercy, Rouergue, à la Provence, et ensuite s'est remontée vers le Bordelais, l'Angoumois, ensuite dans le Gâtinais. Le Gâtinais, ça a duré jusqu'au XXe siècle, au début du XXe siècle. Et ensuite, Normandie, Angleterre, ont produit aussi du safran. Et donc, ça a perduré uniquement sur certaines terres qui étaient favorables, parce qu'à des endroits, effectivement, autant on va pouvoir planter du safran, il va durer quelques années, mais il ne pourra pas tenir éternellement en culture, dans le sens où si les terres sont trop humides, par exemple, à long terme, les maladies peuvent s'y mettre et empêcher cette culture et l'implantation d'une culture très, très, très approfondie et intéressante à long terme.
Au Cachemire, la tradition orale fonde l'origine du safran sur un apport extérieur. Près de Kandara, au cours d'une procession qui précède la floraison, on invoque un vieux sage des temps très anciens qui aurait sauvé la population de la disette. Lors d'une disette, il partit chercher de l'aide. En chemin, il fut fait prisonnier par des nomades dont le chef était malade. La science du vieillard sut guérir cet homme. En remerciement, le chef lui rendit la liberté et lui offrit ce qu'il avait de plus précieux, du safran et des bulbes. Il lui enseigna le mode de culture et les vertus. De retour dans son village, le vieux sage et son safran redonnèrent force et courage à la population. Depuis ce jour, le safran est l'une des richesses du Cachemire. La légende ne dit pas d'où venaient les nomades. L'énigme reste entière.
Donc le safran en France, à peu près vers le 12e, vous dites, 12e, 14e, ça perdure jusqu'à quelle époque ? Christian Agrèche.
Ça a perduré jusqu'à la Renaissance, et avant la Révolution, la culture du safran, l'importante culture du safran en Quercy, s'était éteinte.
Et ça s'est éteint, on explique pourquoi ?
Alors l'explication, elle est toute simple en fait. Hein. Certains vont dire que c'est parce qu'il y avait trop de main-d'œuvre et qu'on ne pouvait plus continuer à payer la main-d'œuvre pour ramasser le safran, ce qui est totalement faux, puisque les cultures, elles se font en fonction de la demande et non en fonction de la main-d'œuvre. S'il y a de la demande, on mettra la main-d'œuvre qu'il faut. Et c'est vrai que c'est toujours le cas, puisqu'on produit des fraises, des haricots verts, des petits pois. C'est pas facile à cultiver, pourtant il y a de la demande et on continue à le produire. Donc le safran, en fait, il a correspondu à une période très importante de culture au niveau épices. Il faut savoir que le Moyen-Âge a été une période de forte consommation d'épices. On mettait des épices dans tous les plats, quasiment. Par contre, une recette sur quatre au Moyen-Âge, que ce soit dans la cuisine française, anglo-saxonne, en Allemagne, pareil, ou alors en Italie, c'est exactement la même chose, comme en Espagne, on avait une recette sur quatre en moyenne qui contenait du safran au Moyen-Âge. Tous les livres de l'époque nous le montrent. Et on consommait une centaine d'épices et d'aromates, je dirais, régulièrement, alors que dans les livres de cuisine du début du XXe siècle, on n'en trouve plus qu'une dizaine régulièrement, quoi, une dizaine d'épices et d'aromates utilisées. Donc ceci dit, il y a eu une très forte consommation d'épices au Moyen-Âge qui était liée, finalement, au monde médical arabe, gréco-romain, qui avait formé, disons, la civilisation alimentaire française jusqu'au Moyen-Âge. Donc on se devait, notamment la théorie des humeurs, on se devait de consommer certaines choses qui étaient classées par un code diététique bien fait, mais pas toujours rationnel et pas toujours aujourd'hui médicalement ou diététiquement reconnu. Mais il y avait un code alimentaire qui imposait de mettre des épices. Alors il y avait aussi le côté voyage, le côté... aujourd'hui, on prend l'avion pour voyager, on prend l'avion pour aller en Orient, par exemple, mais à l'époque, c'était les épices que l'on consommait qui nous faisaient voyager.
C'est la cuisine.
Il faut savoir, par exemple, que Christophe Colomb a découvert l'Amérique parce qu'il croyait aller aux Indes chercher des épices. Et effectivement, c'était des bateaux et des flottes de bateaux qui partaient chercher les épices. Donc, pour dire, c'était important. Par contre, d'Amérique, sont partis des flottes de bateaux pour aller en Irak faire la guerre à cause du pétrole. Vous voyez que le pétrole de l'époque, c'était le safran et les épices, surtout, oui. En général, les épices. Donc, pour resituer le contexte. Alors, arrivé à la Renaissance, la bourgeoisie, les nobles, ont décidé que finalement, ça faisait mauvais augure que de mettre des épices partout, de cacher un peu le goût des aliments. Et on a décidé que c'était pour les gueux, finalement, que de mettre des épices, on n'en mettait plus. Donc, on a arrêté de mettre des épices. C'est pour ça que l'on ne retrouve plus que sur nos tables du sel et du poivre. Et c'est vrai... On a pris l'habitude de mettre du sel et du poivre, c'est les seules épices que l'on met, alors que les Romains mettaient un sel mélangé à une vingtaine d'épices sur la table. Ouais. Ça s'appelait le sel aux épices romains. Et dont le safran était à l'intérieur. Donc on voit bien que la civilisation alimentaire a changé plusieurs fois, alors que contrairement... ce changement ne s'est pas produit en Inde, par exemple, ou dans les pays asiatiques, où ils ont gardé la même culture avec le même rapport au goût et aux épices et aux mêmes valeurs finalement diététiques qui ont fondé leur civilisation alimentaire.
Du côté de l'Olympe, l'origine du safran est accidentelle. Crocos, un ami d'Hermès, jouait à lancer le disque avec les dieux du commerce et des valeurs. Il fut frappé au fond d'une blessure mortelle. Le sang qui s'écoulait fut absorbé par la terre. Sur le lieu de l'accident surgit plus tard une fleur dont les trois stigmates rouge sang symbolisent la résurrection et la puissance vitale.
Nous parlions de l'origine du safran tout à l'heure. Dans différentes recherches que j'ai pu faire, un peu biblio, j'ai vu qu'on en parle même au niveau de la mythologie, donc c'est vraiment très très ancien.
Oui, on peut dire que 2 ou 3 000 ans avant Jésus-Christ, on cultivait déjà le safran. On retrouve des fresques sur le palais de Gnosos sur des murs, on voit là, des cueilleuses de safran. Et donc, on peut dire que même en Égypte, on a le papyrus Ebers qui était des ordonnances médicales qui parlent des effets médicinaux du safran. Donc tout ça, c'est très ancien. L'usage du safran est très, très ancien. En fait, même au niveau de notre région, on peut dire que la culture s'était oubliée, mais le safran était là bien avant les produits arrivés après la découverte de l'Amérique, c'est-à-dire que les tomates, le maïs, etc., c'est tout neuf par rapport au safran qui, lui, est là depuis plus de 1000 ans, quoi, ou 1500 ans sur notre territoire. Donc c'est vraiment une entité locale et bien installée dans notre région, quoi. Voilà.
Mais c'est quand même bizarre, parce que bon, vous dites que c'est bien installé, que ça va bien ancré, et qu'on l'ait oublié comme ça pendant... Enfin, de la Renaissance jusqu'à nos jours, quoi. Enfin, au moins plus de deux siècles, quoi. Deux, trois siècles.
Mais disons qu'on l'a plus utilisé, donc il n'était plus, visible, et donc on l'utilisait uniquement. Les gens pensaient que le safran, ça s'achetait à l'épicerie, que c'était une poudre qui venait des îles ou des pays tropicaux, quoi. Grosso modo, avant qu'on en reparle, c'était un peu ce que pensaient les gens, quoi.
À cette époque-ci, même en France, il ne servait qu'à la cuisine, ou est-ce qu'il avait d'autres applications, ce safran?
Alors, c'est vrai que le safran, la plante elle-même, est extraordinaire, parce que, bon, dans l'Aveyron, on dit, dans le cochon, tout est bon, et dans le safran aussi, tout est bon, puisque à la fois le bulbe est source de revenus, de multiplication, on en a même fait du pain à une certaine période, on l'a rajouté dans du pain en termes de bulbe séché et broyé dans la farine.
Mais c'est ce que j'ai eu dans
une période
bouquin,
de famine. Bon, c'est pas très bon, hein, je peux vous dire que c'est pas très bon.
Les bulbes de crocus renferme de l'amidon en proportion élevée. Les bulbes, une fois broyés, donnent une pâte qui, après addition d'eau et de levure de bière, fermente promptement si la température est élevée. On obtient, en distillant le liquide fermenté, une liqueur assez agréable, dénommée par son inventeur M. Vergniaud Romagnesi, safrane. On peut, en coupant les oignons en tranches et en les faisant cuire dans l'eau ou dans du lait, obtenir un mets très délicat. Les bulbes, une fois moulu, donne une farine d'un beau blanc, facile à bluter et pouvant servir à la panification et à la pâtisserie. Extrait du livre Le safran du Gâtinais de 1913 par Jean Ursa, professeur d'agriculture à Pithiviers.
Le bulbe a un intérêt économique, première chose. Ensuite, les feuilles, si elles sont ramassées juste avant qu'elles ne sèchent au mois de mai, elles peuvent servir de fourrage. C'était utilisé dans le Gâtinais. Les fleurs, qui sont des déchets, on peut les distiller. Et on a une huile essentielle qui correspond vraiment à une huile essentielle de rose miellée, à une odeur de rose miellée intéressante. Donc pour ça, il faut en avoir quand même une certaine quantité. Mais ça peut se distiller facilement. Et donc les fleurs sont déjà ramassées. Donc c'est quand même pratique. Ça évite d'avoir les ramasser exprès. Donc c'est à faire dans l'avenir. Ensuite, au niveau de l'épice elle-même, on a plusieurs usages. L'usage tinctorial, qui a été utilisé pour teindre la soie, notamment dans les soirées de Lyon, où on teignait avec le safran. Et ensuite, on a les enluminures qui se faisaient avec du safran, la tempéra, les peintures. On écrit des versets du Coran avec de l'encre au safran. Il y a des symboles comme ça qui sont importants, on l'utilise dans la calligraphie. Et le safran, bien sûr, donc en tant qu'épice, épice culinaire, mais qui a plusieurs facettes. La première facette, c'était la facette aromatique, puisqu'il y a des aromates très particuliers et une flaveur très intéressante, très chaude. Et ensuite, nous avons la couleur qui a toujours été très intéressante pour donner de la couleur aux sauces, aux plats, et déjà depuis l'Antiquité, quoi. On colorait à la fois certaines crèmes, les pâtisseries, les sauces, etc.
L'histoire et l'utilisation du safran, nous y reviendrons avec Christian Agrèche et d'autres intervenants de cette série. Les lectures étaient tirées du Safran de Pierre Aucante aux éditions Actes Sud. Pour tout commentaire ou renseignement sur les chemins de traverse, une adresse courriel est à votre disposition instant.lotois@orange.fr. A très bientôt sur cette même antenne dans Le Safran, de la safranière à votre assiette. C'était Les Chemins de Traverse avec Pascal Laurière, une émission Maurice Clément-Fèvre.